Alors on est avancé un petit peu vite dans la chronologie, mais c'est impossible de s'y tenir. Pendant tout ce temps-là, donc Perret continue à écrire des poèmes et à publier en particulier chez Gallimard, c'est son seul livre publié chez Gallimard, un livre important qui s'appelle Le Grand Jeu, pour lequel Breton a écrit un prière d'inséré tout à fait magnifique. Le Grand Jeu. Le cœur de Benjamin Perret est au carreau du temple, ce que la pique crachant la tête de la princesse de Lamballe est au trèfle incarnat. Gabriel va nous lire un poème du Grand Jeu, « Un mouton tordu, mouches heureuses ».
Cinq ou six moutons perdus dans les escaliers. L'un disait « Je vais à la cave ». Un autre montait au grenier. Un troisième sonnait à l'entresol. La porte ouverte, il vit une tondeuse qui fredonnait une romance de fil télégraphique. La tondeuse était grande et belle comme une jeune haie. Ses yeux étaient si lumineux que le mouton songea « Mais c'est ma sœur, la tabatière du patron !» Et sa voix se fit persuasive comme la sirène d'un navire en perdition. La marée montante, ou la lettre revenue, avec la mention « décédée ». Elle disait cette voix, « Les moutons sont de braves gens, sans tambour ni trompette, ils viennent et s'en vont. Ils partent avec du poil et reviennent sans chemise. Vive les moutons bien tondus !»
Alors pour rester dans la poésie, on va écouter Pierre Brasseur, qui était un grand ami de Perret et qui a fait partie d'ailleurs du groupe surréaliste au tout début, dans les années 25. Oui. Perret qui lit un très beau poème patriotique de Benjamin Perret qui s'appelle « L'hymne aux anciens combattants ». C'est le 4 du CD. Alors, à peu près à la même époque, en 1929, Aragon et Perret acceptent la proposition d'un éditeur belge qui publie un numéro spécial de la revue surréaliste Variété et qui, pour améliorer les ventes de la revue, leur demande un texte à caractère pornographique. Donc, ils vont publier un livre qui s'appelle 1929, premier semestre par Aragon, deuxième semestre par Benjamin Perret, avec des photos pornographiques de Man Ray. Quand je dis pornographiques, ce sont vraiment des photos pornographiques. Et ce livre est assez unique dans l'histoire de l'édition clandestine, parce que c'est un des rares livres de ce genre qui soit signé du nom des auteurs et de l'illustrateur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas hésité à signer ce livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais nous allons quand même vous en donner une petite idée. Ça s'appelle 1929.
Ce qui monte le long de tes cuisses n'est pas l'air des montagnes, ni une coccinelle. Mais on le trouve sur les montagnes et les portes cochères le cachent le soir dans l'ombre. Il ne dit rien, mais comprend tout. Le cheval blanc de Henri IV l'a montré à Ravaillac. Devine, et tu verras si ma queue est un bon nougat.
Alors, 1929, c'est l'année où Perret va partir pour vivre au Mexique.
Oui, alors 1929, effectivement, Perret suit son épouse, Elsie Houston, qu'il a rencontrée d'ailleurs à Paris, puisque Elsie a pour beau-frère donc Mario Pedrosa, dont j'ai parlé tout à l'heure, le jeune intellectuel brésilien. Il va y rester jusqu'en 1931. Dès son arrivée, d'ailleurs, l'ambassadeur de France, donc, qui est au Brésil, tente de rassurer un peu son environnement en disant « Monsieur Perret est un des champions de l'école surréaliste, qui compte pas mal d'adeptes parmi les jeunes, mais qui ne fait courir aucun danger à l'ordre social. » je crois qu'il aurait mieux valu de se taire, car, bien évidemment, Benjamin, comme on s'en doute, va faire parler de lui. Alors, je ne vais pas retracer, bien évidemment, c'est trop long, toute l'histoire de ce séjour mouvementé au Brésil. Disons bien évidemment que là, il va partager son existence, comme il l'a fait tout au long de sa vie, par l'écriture et par l'activité politique. Mais sans, bien évidemment, mélanger les deux plans, on y reviendra plus tard, en parlant du Mexique, par exemple. Il continue, bien évidemment, de collaborer aux revues surréalistes en France, comme le Surréalisme au service de la Révolution. Il écrit des poèmes, dont certains seront publiés dans « Je ne mange pas de ce pain-là ». Et il a une intense activité politique dans une jeune organisation d'opposition de gauche qui vient de se fonder, la Ligue communiste, avec son ami Pedrosa et Livio Xavier. Il milite syndicalement, il prend des responsabilités aussi de père de famille, puisqu'il vient d'avoir un fils avec Elsie. Mais il faut le dire, ça va être aussi quelque chose de fondamental dans son approche des mythes, mais aussi d'un point de vue théorique, il va repenser la création poétique à travers le mythe, tout d'abord au Brésil et plus tard au Mexique. Et en particulier pour le Mexique, il va s'intéresser de très très près aux rites et aux cérémonies de la Macumba et du Candomblé. Il va sur place, il est dans les cérémonies, il les décrit, presque en ethnographe de métier, je dirais. Et il va aussi, là, dans la dimension sociale et politique, s'intéresser à la révolte des marins noirs en essayant de, plutôt en faisant des archives de façon très, en fouillant les archives de façon très approfondie. Il a pour ambition d'écrire un livre intitulé « L'amiral noir », qui était un marin brésilien noir, Joao Candido. C'est un peu une affaire Potemkin, si vous voulez. Et c'est un sujet très chaud. Et bien évidemment, ses activités politiques, et surtout cette recherche, puisqu'il va jusque dans les archives, ou plutôt il sollicite de consulter les archives de la marine de guerre, et ça, bien évidemment, le gouvernement ne va pas le tolérer, et il est arrêté et expulsé comme dangereux agitateur communiste. Donc on est loin d'appréciation de notre ambassadeur. Et il est de retour, donc, expulsé par le gouvernement Getulio Vargas, donc, à Paris. Il revient en 1932. Donc, c'est la période-là, bien évidemment, où il y a une crise qui vient de se dérouler et qui s'est conclue par la rupture entre le groupe surréaliste et Aragon. Et Perret va, bien évidemment, publier, dans ce milieu des années 30, des recueils qui ont marqué hein, de façon très importante. On a cité tout à l'heure le Grand Jeu. Il y a « Je ne mange pas de ce pain-là » que l'Association des Amis de Benjamin Perret vient de rééditer tout récemment chez Sileps. Il y a bien évidemment le magnifique « Je sublime » dont Dominique va nous parler, je pense.
Alors, je voulais déjà donner une idée de la poésie, de l'appréciation que ces amis poètes faisaient de la poésie de Benjamin Perret, en demandant à Gabriel de lire le prière d'inséré écrit par Paul Éluard pour De derrière les fagots.
1934, donc. Une des principales propriétés de la poésie est d'inspirer aux cafards une grimace qui les démasque et qui permet de les juger. La poésie de Benjamin Perret favorise comme nul autre cette réaction aussi fatale qu'utile. Car elle est douée de cet accent majeur, éternel et moderne, qui détonne et fait le vide dans un monde de nécessité prudemment ordonnée et de rengaine murmurante. Car elle tend, avec ses images extralucides, ses images claires comme de l'eau de roche, évidentes comme le cri strident des œufs rouges, à la compréhension parfaite de l'inhabituel et à son utilisation contre les ravages de l'exploitation maligne de la bêtise et d'un certain bon sens. Car elle milite insolemment contre un nouveau régime, celui de la logique, lié à la vie non comme une ombre, mais comme un astre. Ma fierté est de ne connaître que des hommes qui aiment autant que moi cette poésie spécifiquement subversive qui a la couleur de l'avenir.
Alors, exemple de cette poésie subversive, c'est un poème publié dans le recueil « Je ne mange pas de ce pain-là » en 1936. C'est un poème qui s'appelle « Louis XVI s'en va à la guillotine ». Alors on va l'écouter, c'est le 14. Est-ce que vous pouvez mettre le son un petit peu plus fort? J'ai l'impression qu'on est faible pour les écoutes du CD.
Qu'est-ce qui pue? C'est Louis XVI, l'œuf mal coulé, et sa tête tombe dans le panier, sa tête pourrie. Parce qu'il fait froid le 21 janvier, plus du sang, de la neige et toutes sortes de saletés, qui jaillissent de sa vieille carcasse de chien crevé au fond d'une lessiveuse, au milieu du linge sale, qui a eu le temps de pourrir, comme la fleur de lys des poubelles que les vaches refusent de brouter parce qu'elle répand une odeur de Dieu. Dieu le Père des goûts, qui a donné à Louis XVI le droit divin de crever comme un chien dans une lessiveuse.
Alors, l'année suivante, Perret va publier. Alors ça, je vais dire un mot très rapidement sur la façon dont les livres, dont Perret réussissait à publier ses livres. Je veux dire, ça marchait par souscription, ça marchait avec des éditions surréalistes, ce qui était en fait une manière de s'éditer à compte d'auteur, c'est de l'auto-édition, et ça marchait avec l'aide des peintres. Les recueils sont illustrés, par exemple Picasso offre une gravure à Perret pour Je ne mange pas de ce pain-là, et pour le recueil, un des plus beaux recueils de Perret qui s'appelle Je sublime, c'est Max Ernst qui va faire des gravures somptueuses. Et Je sublime est un des sommets de la poésie de Perret. Et en 1939, quand André Breton, par exemple, est mobilisé, il répond à une enquête du Figaro que lisent les soldats, et il dit qu'il évoque les deux ouvrages les plus importants qu'il ait emportés avec lui, en dehors des pensées de Pascal. Il parle des deux ouvrages qui consacrent pour moi, jusqu'à ce jour, l'expression la plus évoluée en vers ou en prose, « Je sublime » de Benjamin Perret et « Au château d'Argol » de Julien Gracq, qui vient de paraître. Et pour donner un exemple de ce qui est écrit dans « Je sublime », je vous propose d'écouter Pierre Brasseur lisant un des poèmes de « Je sublime » qui s'appelle « Allô ». C'est loin.
Mon avion en flamme, mon chapeau inondé de vin du Rhin, mon ghetto d'iris noir, mon oreille de cristal, mon rocher dévalant la falaise pour écraser la tempête, mon escargot de pâle, mon austère, mon édredon de paradisier, ma chevelure des plus noires, mon tombeau éclaté, ma pluie de sauterelles rouges, mon île volante, mon raisin de turquoise, ma collision d'eau folle et prudente, ma plate-bande sauvage, mon pistil de pissenlit porté dans mon œil, mon oignon de tulipe dans le cerveau, ma gazelle égarée dans un cinéma des boulevards, ma crassette de soleil, mon fruit de volcan, mon rire des temps cachés où vont se noyer les prophètes distraits, mon inondation de Tarsis, mon papillon de morille, ma cascade bleue comme une lame de fond qui fait le printemps, mon revolver de corail dont la bouche m'attire comme l'œil d'un puits scintillant, glacé comme le miroir où tu contemples la fuite des oiseaux mousses de ton regard, perdu dans une exposition blanche, encadré de mon vie.
Donc peu après la publication de Je sublime, Benjamin Perret va aller en Espagne. Il a adhéré en juin, un mois avant les événements d'Espagne, au POI, le Parti ouvrier internationaliste, où il retrouve son vieil ami Pierre Naville, avec lequel d'ailleurs il a eu quelques fâcheries entre-temps. Mais là, ils sont dans la même organisation et bien évidemment... à partir du coup d'État de Franco, le sang ne fait qu'un tour chez Benjamin. Si je me souviens bien, il dit « Je pars en avant la musique », citant l'autre Hamon, et il va s'engager pleinement. Et quand je dis pleinement, c'est sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il participe à des tâches les plus diverses. Il parle à la radio du Parti ouvrier d'unification marxiste, dirigé par Andrés Nin, qu'il côtoie et avec lequel il discute parce qu'ils sont en désaccord politique. Il y retrouve par exemple ses amis Marilo, la poétesse, la compagne de Juan Brea, poète surréaliste cubain. Et c'est un engagement donc également physique et même militaire puisqu'il va sur le front, accompagne la colonne Lénine, qu'il ne faut pas confondre avec les brigades internationales qui sont plus ou moins contrôlées, et pour beaucoup plus que moins, par l'appareil stalinien. Bien évidemment, dès les premiers moments, on se rend compte d'ailleurs l'enthousiasme, la vitalité qu'il donne dans ce combat révolutionnaire lorsqu'il s'adresse à André Breton dans une lettre du 11 août. Donc on est au tout début de la Révolution espagnole. Voilà ce qu'il écrit à Breton. « Si tu voyais Barcelone telle qu'elle est aujourd'hui, émaillée de barricades, décorée d'églises incendiées, dont il ne reste plus que... les quatre murs, tu serais comme moi, tu exulterais. D'ailleurs, dès qu'on a passé la frontière, ça commence. La première maison qu'on voit en territoire espagnol, une grande villa entourée d'un parc, a été saisie par le comité ouvrier de Puiggersa. Dans ce village, en arrivant, on entend un bruit de tonnerre. C'est une église que les ouvriers, non contents de l'avoir incendiée, jettent à bas avec une rage et une joie qui fait plaisir à voir. Des églises incendiées ou privées de leurs cloches. On ne voit que ça en Catalogne, tout au long de l'affreux petit tortillard que j'avais emprunté pour aller de Puigcerdà à Barcelone et qui m'a paru une promenade féerique. » Alors cet enthousiasme, cet optimisme, on va dire, du début, va tourner court, car bien évidemment, dans cette guerre civile, je veux dire qu'il y a même une guerre civile à l'intérieur de la guerre civile, puisque les révolutionnaires, ceux qui ne suivent pas l'orientation que prend les événements d'Espagne, à savoir en fin de compte une alliance avec les partis bourgeois que soutient le Parti communiste espagnol et bien évidemment Moscou en même temps, eh bien ces militants, qu'ils soient anarchistes, socialistes de gauche, trotskistes, subissent la répression, sont arrêtés, quelquefois torturés. Son ami Juan Brea est victime de deux tentatives d'assassinat. Benjamin Perret doit se réfugier chez sa nouvelle compagne qu'il a rencontrée là-bas, Remedios Varo. Il n'assistera pas, on pourrait dire, au point d'orgue de la Révolution qui sont les journées de mai 1937. Mais un tout petit peu avant, là aussi, il faut lire une lettre, un très court extrait d'une lettre à André Breton où on voit tout à fait le changement de ton. La Révolution est sur son déclin. Voilà ce qu'il lui écrit le 7 mars 1937. « Mon cher André, dès les premiers jours de mon retour, il s'était avéré que toute collaboration avec le POUM était impossible, le POUM étant l'organisation de André de Snin. Il voulait bien accepter des gens à leur droite, mais pas à leur gauche. Par ailleurs, rien à faire à cause de la bureaucratisation ultra rapide de tous les organismes et du fonctionnarisme scandaleux qui s'est développé. En outre, sous l'impulsion des staliniens, la révolution suit un cours descendant qui, s'il n'est pas rapidement enrayé, mène tout droit à la contre-révolution violente. Dans ces conditions, j'ai décidé d'entrer dans une milice anarchiste et me voici au front, à Pina de Ebro, où je resterai tant que rien d'intéressant ne m'appellera ailleurs. Le secteur, que je n'ai pas choisi, est d'un calme parfait. Nous sommes séparés des fascistes par toute la largeur de l'Ebre en crue, c'est-à-dire par un bon kilomètre d'eau, aussi pas un coup de canon, pas une balle, rien. C'est trop calme pour durer. En fin de compte, Perret va rentrer rapidement à la fin du mois de mars.
Alors, c'est difficile d'évoquer Perret sans penser à André Breton. Dans ses entretiens, Breton a évoqué justement le départ de Benjamin Perret pour l'Espagne, et c'est un fragment de ses entretiens que nous allons écouter maintenant. C'est le 5.
L'imagerie mentale des premiers jours de la Révolution espagnole nous garde l'aspect d'un Benjamin Perret assis devant une porte de Barcelone, fusil d'une main et de l'autre, caressant un chat sur ses genoux. Dans mon livre « L'amour fou » qui fait paraître en 1937, je dis pourquoi je n'étais pas physiquement avec lui ou dans ses parages. C'était à cause d'une enfant, la mienne, qui venait de naître et qui n'eut eu aucun moyen de vivre sans moi. Au cours des trois années qui précèdent la Nouvelle Guerre, le surréalisme réaffirme sa volonté de non-composition avec tout le système de valeurs que met en avant la société bourgeoise. Cette volonté s'exprime avec le maximum d'intransigeance et d'audace. Dans le recul de Benjamin Perret, je ne mange pas de ce pain-là. Elle donne aussi toute sa mesure dans les poèmes de Jacques Prévert, La Croix en l'air, Le temps des noyaux, qui se montrent un peu plus fidèles à l'esprit surréaliste, même si leur auteur a choisi de faire route à part. En ce sens, la démarche de Perret, on pourrait dire aussi celle de Queneau, qui trouve à ce moment sa voie définitive, puis leur principale force dans l'humour. C'est du mouvement. Et plus que jamais à l'ordre du jour, il prend valeur de recours, de refuge suprême, et c'est ce qui m'engage à pouvoir l'isoler. Ce sera l'anthologie du monde noir, à partir d'un certain nombre d'œuvres qui le contiennent à un degré variable. Les autres sollicitations, qui dans le surréalisme seront plus impérieuses que jamais, ont trait à l'amour sous sa forme la plus exaltée, telle qu'il passe dans « Je sublime » de Perret, dans « L'amour fou » et au merveilleux que Guernaby prospecte à travers les âges, dans « Le miroir du merveilleux » et dont Julien Gracq, tout imprégné des romans du drame, reprend la quête dans « Au château d'Arcole ».
Alors qu'est-ce qui se passe, Gérard, quand Perret revient d'Espagne vaincu, sans illusion?
Non, ce n'est pas lui qui est vaincu, c'est la révolution qui est vaincue, qui est trahie, pour reprendre une expression de Trotsky à propos de l'URSS. Donc c'est la répétition sous des formes différentes de ce qui s'est passé en URSS. Alors il y a un fait marquant, bien évidemment, les surréalistes ne s'avouent pas vaincus et Perret ne s'avoue pas vaincu. Même si la situation est un peu désespérée, je pense que la signature, par exemple, du manifeste pour un art révolutionnaire indépendant à Mexico, entre Breton et Trotsky, auquel, bien évidemment, immédiatement, Perret répond. Hein, il collabore même à la petite revue Clé. Et d'ailleurs, c'est intéressant, cette collaboration se fait par deux articles où, justement, c'est l'Espagne qui est en cause. Et ce combat qu'il mène, c'est justement pour dénoncer, bien évidemment, les agissements du stalinisme en Espagne et surtout les calomnies que les staliniens font courir sur les gens comme Perret, c'est-à-dire ceux qui, au contraire, cherchent eh bien, à en finir avec le vieux monde, à faire cette révolution que les staliniens s'emploient, bien évidemment, à empêcher. Hein, voilà.
Donc, les années, pour Perret, les années 38, 39, 40 sont des années particulièrement difficiles parce qu'il vit dans des conditions de grande précarité. En plus, il doit subvenir aux besoins de sa femme Remedios, qui est peintre, mais qui ne doit pas vendre sa peinture tous les jours. Là. Il est correcteur d'imprimerie, c'est ce qui lui permet de gagner à peu près sa vie. Et Il continue bien sûr à écrire ses articles, ses poèmes, et garde toujours ses amitiés avec les peintres. Je voudrais qu'on écoute maintenant un texte de Perret sur la peinture, un texte qu'il avait écrit quelques années auparavant sur Miro, qui montre quand même que la manière qu'il avait d'écrire sur ses amis peintres est quelque chose de tout à fait nouveau et n'a rien à voir avec la critique d'art.
Un jour que je descendais l'avenue des Champs-Élysées, un monsieur obèse, décoré de la Légion d'honneur et des palmes académiques, m'accosta et me demanda poliment « Monsieur, pourriez-vous m'indiquer où est l'arbre à sardines ?» Je lui avouai mon ignorance et lui énumérai les diverses espèces d'arbres que je connaissais. L'arbre à saucisson, l'arbre à serrure, l'arbre à vinaigre, l'arbre à hussard de la mort, l'arbre à mouchoir agité en signe d'adieu, l'arbre à curé, l'arbre à bicyclette, l'arbre à gaz, l'arbre à lunettes et bien d'autres encore. Mais à chacun, il hochait doucement la tête en signe de dénégation. Puis, comme il insistait, « Je veux voir l'arbre à sardines !» Je l'envoyais chez Miro, qui a, quelque part, une précieuse plantation d'arbres mystérieux, qui chante des symphonies héroïques les jours d'enterrement et des marches nuptiales lorsqu'un roi d'une quelconque Bulgarie est au cours d'une promenade sentimentale décapité par un enfant de 12 ans. Et sachez que cet homme petit, au regard étrange, a vu dans votre corps le fragment d'os d'où sortira tout à l'heure une légion d'hirondelles annonciatrice de la découverte de l'Amérique. Sachez que vos chaussures n'ont plus aucun mystère pour lui, qu'il sait exactement quelle quantité de liqueur séminale entre dans la composition de votre gilet, ce qu'on peut espérer de votre foie et de cette âne qui s'obstine à ne pas braire parce qu'on lui a refusé les derniers sacrements à l'occasion de son 50e anniversaire. Et pourtant, il a bien droit à ses sacrements, lui, le descendant direct et unique, unique comme le regard du sauvage qui voit pour la première fois de son existence une pierre à fusil s'unir à un géranium, de Saint-Pierre et de la brosse du dromadaire ailé qui, un soir d'automne, s'enfuit du harem de Haroun al-Rachid pour aller quêter sur les routes de nuages le gland des pauvres.
Alors, qu'est-ce qui se passe à la déclaration de guerre, alors ?
La déclaration de guerre.
La mobilisation.
Oui. Bon, ben, Perret va être arrêté. Il a toujours ses activités subversives. Par exemple, il joue quelques mauvais tours là où il a été mobilisé. Il remplace, par exemple, dans les textes, les militants politiques par des personnes au patronyme de curé, par exemple. Bon, toute cette activité-là ne plaît pas. Il va être incarcéré, donc, en mai 1939. Voilà.
Alors, ce qui est amusant, c'est de savoir que des gens comme Breton et comme Perret sont absolument... Sont des personnages considérés comme relativement dangereux, donc ils sont observés par la police, on fait des rapports sur eux. S'ils avaient des téléphones et des ordinateurs, je pense qu'ils seraient surveillés d'encore plus près. Mais on a retrouvé, par exemple, dans les archives de la préfecture de police, un document daté du 11 décembre 1940, où on lit des choses absolument terrifiantes. Le nommé André Breton est soupçonné d'activités extrémistes. Il fréquenterait le café des Deux Magots, boulevard Saint-Germain, où il retrouverait notamment le nommé Benjamin Perret, également susceptible d'activités antinationales. Et peu de temps après, d'ailleurs, Perret va se retrouver en prison à Rennes. Alors, dans quelles circonstances ?
Ouais, c'est une affaire très, très compliquée, parce que c'est un trac qui a été découvert et un jeune étudiant a dénoncé le groupe auquel Benjamin appartenait, qui était des militants du POI, en particulier Demazière, Filiatre. Bon, et ça va tout de suite dans les mains de la sûreté, hein, et ils sont emprisonnés, certains vont même être jugés, hein, et Pérève, c'est les circonstances de la guerre qui fait qu'il va être libéré. Hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, il était encore possible, les Allemands avaient besoin donc de prison pour les prisonniers de guerre, donc les droits communs ont été évacués de la prison où Pérève était incarcéré, et ses amis se sont activés pour réunir une somme pour un peu corrompre le juge et le libérer le plus rapidement possible. Voilà. En gros, c'est ce qui s'est passé.
Et après, il lui reste comme solution d'essayer de quitter la France, parce qu'il va bien falloir quitter la France. Je veux dire, pour quelqu'un qui, comme lui, est marqué par son activité politique, par le surréalisme, et qui en plus est anticommuniste et antistalinien, la situation va devenir absolument intenable. Donc il lui reste qu'une solution, c'est de partir. Alors pour partir, il rêve de partir aux États-Unis. Il ne pourra pas être accueilli par les États-Unis à cause de son parcours politique. Mais il attend pendant longtemps à Marseille, c'est la fameuse Villa Bel Air, où il retrouve Breton un certain nombre de peintres qui sont réfugiés, secourus par un comité américain qui essaye de faire partir, de faire quitter la France à un certain nombre d'intellectuels.
Oui, là, il faut souligner le rôle remarquable joué par Varian Fry, qui va réussir, en fin de compte, à sauver à peu près 2000 artistes, écrivains, et à leur permettre de quitter la France, hein, qui était bien évidemment menacée d'arrestation, et en particulier pour beaucoup d'émigrés allemands, par exemple, risquaient beaucoup s'ils étaient, capturés par les nazis. Bon, il faut aussi souligner que le voyage de Benjamin Pérève va être financé par Peggy Guggenheim. Hein. Donc là, il va bénéficier d'une aide importante. Mais entre-temps, il a travaillé dans une petite fabrique, hein, le Croque-Fruit, qui était fondée par d'anciens amis, d'ailleurs, de Benjamin Pérève, comme Jean Rougeol, Sylvain Itkin, qui était un militant trotskiste et aussi un comédien, metteur en scène et dramaturge, et qui est mort tragiquement, évidemment, après avoir été torturé. Voilà. Donc, brièvement, c'est les conditions de son départ. Voilà. Je pense qu'on va un peu abréger sur les questions biographiques et aller directement au texte. Hein. Alors, il faudrait être maintenant...
Alors, ce que je voudrais... Ben, alors là, il nous reste à... Donc, Pérève va partir au Mexique et arrivera au Mexique au début de l'année 41. Mais avant d'aborder la deuxième partie de la vie de Pérève, donc son long séjour au Mexique, son retour en France, un autre voyage au Brésil, je voudrais savoir il faut casser un petit peu le rythme de cette présentation de Pérève. Je voudrais savoir d'abord si vous avez quelques questions à nous poser, auxquelles on pourrait essayer de répondre,